Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Marie au 3921. Bonsoir Marie.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Marie et quel âge avez-vous?
Alors, j'appelle de l'ouest de la France, mais je n'en dis pas plus.
D'accord.
Et vous allez comprendre. En fait, je vous appelle parce que je suis l'auteur d'un livre que j'ai signé sous un pseudonyme.
D'accord.
Donc, vous avez mon prénom, c'est suffisant.
C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. De quoi,
voilà, donc
de quoi allez-vous nous parler?
Eh bien, je vais vous donner le titre de ce livre qui vient de sortir. Et en vous donnant le titre, vous comprendrez quel est le thème que je voudrais aborder avec vous ce soir. Donc, ce livre s'appelle « La solitude de Job quand l'alcool s'invite dans une famille ».
Oui, c'est très explicite.
Voilà. Donc, c'est un livre qui... J'ai rencontré un éditeur qui m'a fait confiance. Et c'est l'éditeur Mediaspol. Et voilà, mon livre est paru après 6 ans d'écriture, dans le silence et la solitude du clavier et l'ordinateur. Maintenant, ce livre est sorti début juin. Et vous êtes la première personne à m'interviewer. Enfin, c'est la première fois que j'en parle.
Ben écoutez, j'en suis ravie.
Donc, voilà, c'est un challenge pour moi. C'est pas absolument évident, mais voilà.
Mais vous allez voir que tout va très bien se passer. Et j'ai même une confidence à vous faire, c'est que il n'y a pas plus tard que 2 heures, j'étais en pleine discussion avec la femme d'un de mes amis très, très proches, qui depuis 4 ans ne se sort pas de cette problématique d'alcoolisme. Et il est comme mon frère, hein, et je suis totalement impuissant. Impuissant devant son alcoolisme, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est quelqu'un qui avait connu l'héroïne dans sa jeunesse.
Oui.
Et qui ensuite est resté 30 années en menant une vie normale, sobre, en tout cas, pas de problématique d'addiction. Et puis, depuis 4 ans, l'alcool, comme vous le dites, s'est invité dans son quotidien. Et c'est terrible. Oui. C'est tout simplement terrible parce que vous pensez, vous, que vous pouvez aider votre ami, vous pouvez lui donner de la force, de l'énergie, en tout cas un raisonnement, et rien n'y fait, rien.
Oui.
Donc nous allons parler d'une problématique qui nous est commune, ma chère Marie.
Oui, eh ben, écoutez, je suis de tout cœur avec vous et je suis heureuse d'en parler avec vous, d'autant plus. Alors en fait, pour tout vous dire, je vous ai expliqué en 2 mots pourquoi j'ai écrit ce livre. Donc bien évidemment, c'est mon histoire que je raconte. Mon mari a sombré dans l'alcool, il avait 37 ans. J'en avais 2 de moins, nous avions 4 enfants. Et son alcoolisation a en fait fait suite à une grosse dépression qu'il a démarré 2 ans auparavant. Et très très intéressant, enfin si vous voulez, professionnellement c'était quelqu'un qui avait tout, c'était un homme brillant, doué, qui avait beaucoup de talent, beaucoup de qualités, généreux, enfin c'était quelqu'un je pense d'assez exceptionnel. Et puis professionnellement il a eu un poste à responsabilité qui l'a beaucoup stressé, et bon, de fil en aiguille il a fait une dépression.
Oui.
Voilà, bon, on démarre dépression, sur la dépression.
Dépression sous forme de burn-out, comme des cas.
Non, vraie dépression.
D'accord.
Enfin, je distingue le burn-out de la dépression, mais c'était vraiment, surtout à l'époque, attendez, ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a plus de 20 ans.
D'accord.
Donc on ne parlait pas encore de burn-out. Mais bref, moi ce que j'en ai vu, ce que j'en ai compris, c'était une vraie dépression. Donc un gros stress professionnel, une pression très très forte sur ses épaules. Et un beau jour, il s'est rendu compte que ben, l'alcool le détendait, que l'alcool lui apportait un soutien, c'était une béquille. Et puis il a plongé en fait extrêmement rapidement dans l'alcool. Il a été 11 ans alcoolique, avec une première phase qui a été très difficile pour moi comme proche. Ça a été le déni. Pendant 4 ans, il a été dans le déni du problème. Puis ensuite, il est sorti du déni et il a encore mis 7 ans à s'en sortir. J'imaginais que ça allait être très vite, ça allait être très rapide à partir du moment où il sortait cette espèce d'enfermement dans le déni où il ne voulait pas avoir le problème malgré tous les événements qui avaient lieu et qui n'étaient pas discutables. Mm-hmm. Je m'étais dit, bon, bah, quand il sera sorti du déni, ça sera super face à la vérité. Et non, il a encore mis encore 7 ans. Voilà donc le cadre, si vous voulez.
Oui.
On habitait en région parisienne à ce moment-là. Et en fait, après toute cette histoire, toute cette expérience de l'alcool d'un proche, j'ai vraiment eu envie de rendre utile à d'autres ce que j'ai compris, moi, de ce parcours qui était extrêmement difficile en tant que conjoint. C'est pour ça que j'ai écrit. Et puis, il y a une deuxième raison. En fait, vous savez bien, il y a une espèce de chape de silence concernant l'alcool, parce qu'effectivement, l'alcool fait peur, hein, et a raison, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est tout à fait compréhensible. Et je voudrais, à ma petite mesure, essayer de briser cette chape de silence. Je suis impressionnée, en fait, par le nombre de personnes et le nombre de familles qui sont touchées par ce fléau. Et je suis aussi très impressionnée de voir de quelle façon ces familles restent justement dans le silence. Il y a une espèce de phénomène d'auto-exclusion. C'est-à-dire quand on s'aperçoit qu'on a un proche, le conjoint ou quelqu'un de la famille qui s'alcoolise, c'est étonnant de voir la peur qu'on a d'en parler. Et donc mon livre, il est là un petit peu pour dire, mais parlez, vous avez un conjoint, vous avez un fils, vous avez un ami qui est dans l'alcool, mais allez-y, parlez-en. Je pense que les malades de l'alcool et les proches iront beaucoup mieux le jour où les uns et les autres oseront en parler. Donc c'est ça ma motivation.
Oui, mais voilà. Bien sûr, votre motivation est bien évidemment à la hauteur de ce que vous avez dû souffrir, Marie.
Oui, parce que, en fait, bon, je pense que toutes les personnes qui connaissent ça seront d'accord avec moi, en fait. Quand je ne me suis pas rendu compte, en fait, que Pascal avait découvert dans l'alcool sa béquille. C'est un ami qui un jour m'appelle, qui voyait très très régulièrement, qui un jour m'appelle et qui me dit « Écoute, faudrait qu'on se voit, j'ai besoin de te parler. » Bon, ok. Donc on se voit et il me dit « Tu sais, quand Pascal vient me voir, il sent pas le Chanel numéro 5. » Oui. En fait, je suis inquiète pour son boulot. Il a un problème d'alcool. Est-ce que tu le savais ? Alors moi, tout s'est effondré pour moi, en fait, ce jour-là. Tout s'est effondré. Ça a été une espèce de tremblement de terre. J'étais complètement sonnée parce que je ne m'en doutais pas.
Vous ne vous rendiez absolument pas compte ?
Non, parce qu'en fait, je mettais tout sur le compte de la dépression. C'est après coup où, effectivement, je me suis dit « Ah ben oui, d'accord. » Il y a eu plein de signaux qui ont pris du sens avec cette explication de l'alcoolisation. Donc, ensuite, c'est devenu très, très cohérent, très évident. Mais je m'en étais pas rendu compte. Peut-être que quelque part, dans ma tête, j'avais un doute. Mais c'était trop violent, c'était impossible à admettre, en fait. Donc, il a fallu ce coup de pouce de cet ami pour m'aider à... Oui, enfin, c'est même plus qu'un coup de pouce, il m'a ouvert les yeux. Et puis voilà, là, c'était... Ça a vraiment été un tsunami, ça a été quelque chose d'atroce. Et ce qui est eu d'atroce, en fait, et c'est là que voilà, je pense que mon expérience peut rejoindre celle de beaucoup de familles, c'est que le premier sentiment qui m'a complètement submergée, c'était d'abord bon, une douleur énorme pour mes enfants. Je me suis dit, c'est pas possible.
Quel âge avaient vos enfants à l'époque ?
À l'époque, notre aîné avait 11 ans et la dernière avait 3 ans. On avait 4 enfants. Et voilà, je me dis, c'est pas possible qu'on soit dans cette espèce de merdier énorme. Voilà. Bref, donc le premier sentiment, oui, ça a été une douleur très très forte pour mes enfants. Et puis ça a été la honte. La honte.
C'est souvent.
Incompréhensible. Mais
c'est,
oui.
C'est souvent le premier sentiment qui saisit avant, même avant la peur, parce que c'est tellement.
Oui, exactement.
C'est tellement connoté. Vraiment d'une manière particulière l'alcool que c'est oui c'est ce sentiment là qui prévaut dans un premier temps. On va marquer une petite pause,
oui.
Marie, et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Vous aussi venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21 50 centimes la minute.
22h44, vous êtes sur Europe 1 et si vous venez de nous rejoindre, vous pouvez composer le 3921. Nous sommes avec Marie, aidante d'un mari atteint d'addiction. L'alcool a brisé sa famille, Marie va nous l'expliquer. Mais nous sommes dans les premiers moments où vous découvrez l'alcoolisme de votre mari. Vous êtes saisie, vous n'aviez jamais remarqué qu'il y avait un changement, c'est dû à la dépression qu'il vivait, le fait que finalement vous n'ayez rien remarqué ?
Oui, je pense que c'est ça. En fait, je mettais son comportement, le fait qu'il tombe beaucoup, le fait un peu à l'ouest, je mettais ça sur le compte de la dépression, en fait. Donc, ça a été une très, très, très grosse surprise quand on m'a parlé d'alcool et on m'a rendu un immense service. Et parce que voilà, il y a eu donc la honte qui m'a submergée. J'avais honte de lui, j'avais honte pour lui, j'avais honte pour nous, j'avais honte pour nos enfants. Et puis le deuxième mouvement, assez rapide, hein, c'est-à-dire, ok, bon, la réalité, elle est franchement pas drôle, elle est même ultra insécurisante, mais ok, je vais me battre pour lui. Je vais me battre pour lui, on va s'en sortir et puis voilà, on va faire tout ce qu'il faut pour. Donc, ça a été ça, une succession d'émotions et des prises de décisions qui se sont faites en quelques heures.
Alors, généralement, Marie, on prend des décisions, mais on les prend un peu seules parce qu'on est loin d'avoir affronté celle ou celui qui souffre de cette addiction à l'alcool. Bien évidemment, on a envie de le sauver, de se battre pour lui. Mais
exactement.
Que s'est-il passé lorsque vous en avez parlé pour la première fois ? Parce qu'il y a souvent le déni, il y a souvent le mensonge, il y a souvent une sorte de rébellion. Comment peux-tu me soupçonner de ça ? Mais pas du tout. Comment ça s'est passé, vous ?
Eh bien, après avoir rencontré cet ami, Pierre, qui m'a ouvert les yeux, je me suis dit, bon, il faut que j'entende la Pascale. Donc, je me suis dit, je ne veux surtout pas dire que c'est Pierre qui m'en a parlé, parce que là, ça va devenir chaud. Donc, les non-dits ont commencé. Et c'est vrai que pendant toutes ces années d'alcoolisation, il y avait beaucoup de choses que je ne disais pas ou que je cachais. Et donc, je l'ai affronté de face. Et effectivement, je me suis heurtée à sa colère tout de suite. Tout de suite sa colère. Mais qu'est-ce que tu imagines ? Mais si je bois, en fait, moi, je gère. J'arrête quand je veux, mais tu dis n'importe quoi. Enfin bon, ça a été aucun dialogue possible. Il se sentait agressé par ma réaction, par mes soupçons. Et voilà, donc pendant plusieurs mois, je dirais, j'ai essayé de l'affronter de cette façon-là. En disant, mais tu vois bien. Il y a un problème quand même. Et à chaque fois, je me heurtais à son déni et à son agressivité grandissante. Et on s'est disputé, mais d'une façon ahurissante. On en venait à s'insulter, on se battait physiquement. Enfin, je le frappais et il me frappait. Enfin, c'était ahurissant. L'ambiance qu'il y avait à la maison. Et puis, ça n'a pas fait avancer les choses, en fait. Certains jours, je m'effondrais en larmes. Il, lui, s'enfermait dans sa colère, dans sa négation, en fait. Et ça n'a absolument pas fait avancer le schmilblick. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ok, ça ne sert à rien. Ça crée un climat tellement instable et encore plus insécurisant pour les enfants. C'est pas possible. On peut pas passer notre vie à nous disputer, parce que justement, on n'arrivait plus à discuter. On n'arrivait plus du tout à dialoguer. Donc, je me suis dit, je vais essayer autre chose. Je vais essayer de faire la toile cirée. Donc, quoi qu'il se passe à la maison, je ne réagis plus. Je ne réagis plus quand il débarque comme un zombie, quand il passe des heures sur son lit, quand il s'absente, etc. Je ne réagis plus. Donc ça a été une stratégie aussi, pour au moins essayer d'avoir une ambiance à la maison un peu plus supportable que dans les mois précédents où je criais, où je m'effondrais, où on se disputait comme des chiffonniers. Enfin, c'était autre chose. Mais j'avais envie de dire quelque chose aussi avant ça. Vous m'avez posé la question trop vite. Il faut que je retrouve ce que je voulais vous dire. Donc on en était en fait tout à l'heure à la honte. Oui, tout à fait. La honte, et alors la honte, c'est terrible parce que voilà, justement, c'est là qu'on se dit, mais il ne faut pas que j'en parle, il faut que je cache ça à tout le monde. Donc je suis rentrée dans un processus, en fait, où je mentais. Je mentais, on me téléphonait pour prendre des nouvelles, la famille téléphonait, je mentais. Je téléphonais à son bureau pour dire, il est souffrant, il ne va pas pouvoir venir. J'inventais des raisons abracadabrantes pour cacher au maximum la honte qui m'habitait. Je voulais que ce qui se passe sous notre toit reste le plus secret possible et le plus longtemps possible. Donc ça a été, je pense, vraiment une fausse piste que j'ai prise. Voilà, ça fait partie des choses qu'on expérimente et qu'on traverse.
Oui.
Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire ? Après la honte, oui. En fait, non. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on avait la chance, Pascal et moi, d'avoir pas mal d'amis. Et puis, comme on a été aussi assez investis dans des associations, on avait des relations. Et là, c'est vrai que pour le coup, autant j'essayais de cacher le truc par téléphone où je lui trouvais de fausses excuses, autant vis-à-vis des gens qu'on côtoyait chaque semaine, chaque jour presque, c'était compliqué de leur cacher la dépendance de Pascal. Et donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir deux couples qui nous étaient le plus proches et Pascal n'était pas avec moi. Et j'aurais exposé le problème. Et ça a été très, très précieux, en fait, d'avoir cet espace avec ses amis pour en parler. Parce que je me suis sentie moins seule. Parce que ils étaient là, à mes côtés, ils n'étaient pas dans le jugement. Ils étaient à se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire des plans, on va essayer de parler à Pascal, etc. Donc moi, de mon côté, ça a été très, très important d'avoir ces amis là, très proches. Et de fil en aiguille, en fait, il y a eu tout un ensemble de personnes que j'ai découvertes qui se rapprochaient de nous et qui, sans faire grand-chose, en fait, ont manifesté leur présence, passer faire un petit coucou, comment ça va, passer un petit coup de fil, etc. Et moi qui me m'auto-excluais dans ma honte et dans mon silence, en fait, petit à petit, j'ai vu ses amis se rapprocher. Et ça a été une libération, même s'ils n'avaient pas à pouvoir, bien évidemment, sur l'addiction de Pascal. Au point que, un jour, vraiment, ça a été une expérience assez étonnante. En fait, Pascal était régulièrement hospitalisé, soit de son plein gré, soit sous HDT, donc sous contrainte, parce que les pompiers le trouvaient en mauvais état dans sa voiture et donc il était embarqué par les pompiers.
Mmh.
Une fois, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de nos amis s'étaient organisés, parce qu'elle était hospitalisée, et ils s'étaient organisés pour lui rendre visite. C'est-à-dire que pendant une quinzaine de jours, admettons, ils s'étaient organisés pour que tous les jours, Pascal ait une visite. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux parce que il l'avait fait dans l'entière discrétion. Il ne m'avait pas demandé mon avis. Ils avaient fait ça dans leur coin. Mais ça a été très important parce que, en fait, par ce simple geste, j'ai eu la sensation qu'ils me réintégraient à leur monde. À nouveau, on faisait partie des gens normaux parce qu'on avait des amis qui avaient le courage de venir rendre visite à Pascal dans son hôpital. Ça a été une expérience très forte. Et je leur suis très, très reconnaissante. Et je raconte ça dans mon livre. C'est effectivement la mobilisation de nos amis. Leur disponibilité, ça a été un soutien énorme. Et c'est pour ça que j'encourage en fait les familles qui vivent ce fléau, ce drame, à oser en parler. Parce que en fait, les gens se révèlent incroyablement disponibles et incroyablement proches quand on ose parler. Quand on ose appeler au secours, ce qui m'est arrivé une fois, j'ai réuni des amis. Pascal était absent et je leur ai dit, écoutez, j'ai besoin de vous, là. Là, je peux pas. Je sens qu'il est très, très malheureux. Et si vous pouvez essayer de venir parler avec lui ou peut-être aller marcher. Enfin, voilà, faufilez-vous, en fait. Faufilez-vous dans les moments où vous êtes capable de le faire et où lui aussi pourrait être capable de faire un petit bout de chemin avec vous, faufilez-vous dans ces moments-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a même quelqu'un, je me souviens d'une amie qui m'a dit « Mais Marie, on attendait ça depuis tellement longtemps que tu nous appelles au secours. » que tu nous dises que tu... Voilà, nous, on était là, on était malheureux parce qu'on vous voyait malheureux et on ne savait pas quoi faire. Donc, il ne faut jamais, je pense, s'inquiéter, en fait, des réactions. Il y a beaucoup de gens qui sont immensément généreux et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'aider. Voilà.
C'est important. C'est important, bien évidemment, de, oui. d'être entouré.
Oui.
Vous en êtes où aujourd'hui ? Comment va-t-il ?
Oh, Olivier. Alors, Pascal est sorti, je parle de lui au passé, parce qu'il est décédé.
D'accord.
Oui, en fait, il est sorti de l'alcool au bout de 11 ans. Et là, je tiens à en parler parce que, en fait, ça a été assez miraculeux. Moi, j'y croyais plus, on était séparés. J'y croyais plus, enfin, c'était... Il avait mis en place plein de choses, il avait mis en place, nous avions mis en place, voilà. À partir du moment où il était sorti du déni, il était allé voir un alcoologue. Bon, il était bien sûr toujours suivi par un psychiatre depuis le début de sa dépression. Donc, il est allé voir un alcoologue. On était allé ensemble à un groupe de parole. Et ça, ça a été aussi, ça c'est le genre d'expérience miraculeuse qu'on peut faire dans ce drame. C'est le soutien que peut apporter un groupe.
Oui.
Et donc là, en l'occurrence, c'était le groupe de la Croix d'Or, qui ne s'appelle plus comme ça. Il s'appelle Entraide Addict. Et donc, on est allé tous les deux, parce que c'est un groupe qui réunissait à la fois les malades et aussi les proches. Donc, c'était un très, très grand soutien, ce groupe. Et donc, voilà, Pascal est devenu abstinent, une remontée, comme il en avait connu déjà, hein, des plateaux d'abstinence et puis des rechutes. Mais là, cette abstinence-là, elle s'est prolongée et elle a été définitive. C'est-à-dire qu'il est complètement sorti de l'alcool. Et je pense que qu'un des moyens qui l'ont aidé à sortir de l'alcool, ça a été de se mettre entre les mains d'une psychologue comportementaliste, ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementalistes. Et en l'occurrence, pour lui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné très bien, au point qu'il se sentait en pleine forme, il était dégoûté par l'alcool. Il parlait même, étonnant, parce qu'il parlait même de son ancienne addiction, qui n'était pas si ancienne que ça, à vrai dire. Mais ça montre, en fait, la distance et le recul qu'il avait pris par rapport à ça, et à quel point il était libéré de l'alcool. Donc, nous étions séparés à ce moment-là, quand il est devenu abstinent. Notre séparation a duré à peu près 8 ans. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'alcool est parti de sa vie, est sorti de sa vie, il a fallu du temps, mais au bout d'un certain nombre d'années, je me suis dit, tiens, au fond, c'est un homme. J'ai jamais oublié quelles étaient les qualités de cet homme, quelle était sa valeur, et j'ai toujours vu, en fait, l'alcool, et puis ensuite une autre maladie, comme des choses que, bien évidemment, il n'avait pas choisies. S'il avait eu le choix, c'est évident qu'il n'aurait jamais plongé dans l'alcool. Donc, j'ai toujours gardé au fond de mon cœur et au fond de mon esprit, malgré tout ce... tous ces drames qu'on a vécu et toute cette souffrance qui nous a provoqué, j'ai jamais perdu de vue l'idée que c'était un homme aimable, voilà, tout simplement.
Mais c'est vrai, pardonnez-moi de vous interrompre, mais
oui,
c'est malheureusement, je dirais, l'impact encore plus douloureux, oui, encore plus profond que provoque cette addiction, parce que quand elle arrive, cette addiction, elle balaye tout sur son passage, elle transforme. Oui. Et le miracle, bien évidemment, dans l'abstinence, c'est que l'homme ou la femme d'avant revient, renaît quelque part. Mais on va continuer d'en parler, et on va laisser passer l'info sur Europe 1, et puis on se retrouve juste après, Marie. À tout de suite.
D'accord, entendu.
Europe 1. La Libre Antenne. Olivier Delacroix.
« 23h passées de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez, comme Marie et comme tout le monde, appeler le 3921 si vous désirez me parler, échanger, être entendu, écouté et peut-être cheminer ensemble pour trouver des solutions à votre problème. 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire comme vous le faites, encore nombreuses et nombreux ce soir, à l'écoute du témoignage de Marie sur l'alcoolisme de son mari Pascal, et puis le combat qu'elle a mené. N'oublions pas de souligner que dans ce combat, des mains se sont tendues vers elle et que Marie a su les attraper. Mais nous étions, Marie, au moment où Pascal, en fait, finalement, est abstinent complètement, me disiez-vous.
Oui, c'est ça.
Et que vous en allez même à vous poser la question si, finalement, cet homme dont les qualités n'ont pas disparu, et nous l'évoquions avant les infos, finalement, cet homme est redevenu celui que vous aviez connu avant.
En grande partie, oui.
En grande partie.
En grande partie, oui. En fait, ça a été un chemin, finalement, en effet, j'ai repris la vie commune avec lui. Ça a été un chemin très long, quand même, parce que ce qui a été détruit dans notre relation, bien sûr, il y a eu des insultes, bien sûr, il y a eu des coups, il y a eu sa violence, il y a eu la mienne. Mais ce qui a été pour moi le plus profondément détruit, c'est la confiance. Parce que la personne qui boit, elle raconte n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle ment. Elle ment en permanence. Elle se cache. Et donc, c'est quelque chose qui, pour moi, a été très, très long à reconstruire pour à nouveau lui faire confiance.
Oui. Elle ment, elle ment, elle ment. En permanence.
Ah oui, en permanence.
C'est devenu même une manière de communiquer, puisqu'elle ment, même dans des situations où elle n'a pas besoin de mentir.
Ah oui, peut-être. Je ne sais pas.
Si, je crois que le mensonge devient une...
Vous savez, une
oui, oui, quelque chose de...
Réflexe.
Comment appelle-t-on les gens qui mentent et qui finissent par croire? Les mythomanes.
Mythomanes, oui.
Oui, il y a une espèce de mythomanie qui s'installe. Oui. Et, parce que l'alcool aussi désinhibe aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le droit aux envolées lyriques... De Pascal expliquant des situations où il se mettait au cœur de cette situation comme étant celui qui avait résolu tout, finalement. Mais on sait dès le début que la personne ment et que vous allez devoir l'écouter parce que c'est très fatigant d'écouter une personne qui ment.
Oui. Oui.
Et vous avez dû finir exténué. Au-delà des coups, des insultes, de la colère
Alors, en fait, non. En fait, je ne partage pas tout à fait ce que vous dites. Enfin, je ne me souviens plus avoir expérimenté ça. Parce que, non, moi, ce qui était très, très, très compliqué, c'était justement l'absence de dialogue. À la limite, s'il avait parlé et s'il avait affabulé, ou était, peut-être que voilà, c'était un minimum de dialogue. Je ne me souviens pas avoir connu ça, en réalité. Donc,
la fatigue, vous n'avez pas connu la fatigue de
Ah non, mais si, bien sûr que si.
Des mensonges. C'est ça que je vous disais.
Pas des mensonges, non, pas la fatigue des mensonges.
D'accord.
Non, mais en fait, bon, il mentait parce qu'en fait, il racontait n'importe quoi dans le sens qu'il se protégeait. Et puis, je me rendais compte qu'il avait menti. Enfin, il protégeait sa consommation d'alcool. Il ne voulait pas l'admettre. Même après, quand il est sorti du déni, enfin, il avait toujours ce besoin de cacher, en fait, ce qu'il faisait. Et moi, j'avais pris l'habitude de le fliquer. Je cherchais ces bouteilles, ces cachettes, et puis je trouvais ces bouteilles, parce qu'évidemment, on n'avait pas beaucoup d'imagination pour les cacher. Et puis, je marquais au niveau, sur l'étiquette, au feutre, le niveau. Et puis, je remplaçais le liquide par un autre liquide. C'était en général du whisky, mais je remplaçais par du coca. Alors, le coca est un petit peu plus foncé, mais bon, je disais, ça va le faire. Donc, il y a une espèce c'est une course, en fait, que j'ai vécue avec lui. Je lui courais après, je l'ai même fliqué en voiture, parce qu'un jour, j'ai eu la grande, grande surprise. C'était un vrai choc, en fait. Il était soi-disant parti travailler le matin à 8h, bon, bah, très bien. Et puis, moi, je prends ma voiture pour aller dans un quartier où je n'avais pas vraiment l'habitude d'aller, mais j'avais un rendez-vous. Et dans un parking... Le choc de voir sa voiture, il était 10h30 du matin, il n'était pas à son bureau, il était garé dans ce quartier. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un bistrot à côté. Et là, ça a déclenché chez moi une espèce d'obsession. Je n'ai plus été capable, en fait, de résister à l'envie de le fliquer. C'est-à-dire, il quittait la maison avec sa voiture. Et moi, systématiquement, soit je le suivais pour voir où il allait, soit il était absenté, puis je n'avais pas pu le suivre, parce que voilà, j'avais quand même d'autres choses à faire que le suivre. Mais j'ai fait des kilomètres à le suivre, à le chercher en voiture, oui, de quartier en quartier, de bistrot en bistrot. Donc, c'est pour vous dire que voilà, il y a un côté, je veux dire, la personne qui voit, elle est malade, c'est évident, mais le proche, il est malade. Et moi, je me suis dit, mais je deviens complètement tarée, là. Je me suis dit après, hein. Pas sur le coup, c'était une obsession que je ne pouvais pas contrôler. Vraiment de l'obsession, le flicage. Voilà, donc en fait, finalement, malgré tout ça...
Oui, vous en étiez à l'homme qui revient
j'en
à lui-même.
J'en étais, voilà. Alors, ça a été compliqué. Alors, je pense en fait que j'étais beaucoup sous emprise. Et donc, en m'étant séparée, j'ai connu une vie d'abord dégagée de la peur et de l'insécurité de l'alcool. C'est clair. Mais en même temps, j'avais peut-être, oui, ce besoin, en fait, de me rapprocher de lui, puisqu'il allait bien, parce que, voilà, la cause était sortie de sa vie. Donc, je ne vous raconte pas les détails, ce serait trop long. Mais toujours est-il que, je le raconte dans mon livre, toujours est-il que, donc, j'ai repris la vie commune, et en fait, nous habitions la région parisienne, et nous sommes allés nous installer en Bretagne, parce qu'on avait une maison là-bas, et puis parce que lui avait été mis en invalidité, en fait. Il n'avait plus l'obligation de travailler, donc il pouvait s'installer où il voulait. Donc, en fait, il est parti le premier, et moi, je dirais 2 ans après, je l'ai rejoint. Et je dirais que là, c'était une nouvelle vie qui s'ouvrait, c'était une nouvelle aventure, c'était autre chose.
Vous reviviez ensemble, ou vous l'aviez suivi dans la même
à ce moment-là.
D'accord.
À ce moment-là, quand je l'ai rejoint en Bretagne, il est parti 2 ans avant moi, mais je l'ai rejoint en Bretagne.
Avec les enfants?
Avec la plus jeune, parce qu'en fait, les autres étaient, une qui était sur le point de se marier, et puis les autres faisaient leurs études, donc il n'y avait plus que la dernière qui en fait rentrait en troisième. Donc, on était en Bretagne dans une maison qui était en pleine campagne. Donc, voilà, je me suis organisée, j'ai inscrit ma dernière dans une pension à Quimper, et puis on habitait à 50 km. Et c'est vrai que l'été de notre arrivée, notre déménagement, s'est bien passé, en fait. On a tous eu l'impression, tous les enfants et nous, leurs parents, ben, que voilà, c'était une résurrection, que c'était autre chose qui allait pouvoir se construire familialement. Et moi aussi, j'ai eu ce sentiment au niveau de mon couple, une espèce de résurrection, quelque chose qui était complètement inattendu, mais qui nous était donné. Donc, super. Malheureusement, malheureusement, ça n'a duré que 4 mois, cette période un peu euphorique. Enfin, qui n'était pas euphorique, parce qu'elle était fatigable. Enfin, si vous voulez, il avait quand même ingurgité pas mal d'alcool pendant 11 ans. Donc, physiquement, voilà, il était quand même plus au top de sa forme comme avant. Et puis là, au bout de 4 mois, eh bien, en fait, il a démarré ce qu'on a appelé une décompensation psychiatrique,
oui,
qui a été faite de délires mystiques. En fait, il avait eu des révélations sur la fin du monde et qu'il allait participer en fait, au retour du Christ, parce que nous sommes croyants, nous sommes chrétiens. Donc voilà, c'était le retour du Christ qui allait arriver et qu'il y avait une mission à accomplir pour préparer le retour du Christ. Et puis le corollaire en face, c'est que toutes les personnes qui lui mettaient des bâtons dans les roues, en fait, étaient Satan. Et donc, j'ai été Satan.
Oula.
J'ai pas été la seule. Mais pour lui, en fait, à chaque fois que je le contredisais ou que je n'allais pas dans son sens, il pensait que j'étais l'incarnation du démon. Voilà. Et donc, c'est devenu très, très chaud. Il était pris de logorée, c'est-à-dire qu'il parlait en permanence. Alors là, vous disiez tout à l'heure d'affabulation, de mystification, ben là, c'était un petit peu ça, si vous voulez, mais c'était du vrai délire. C'était du vrai délire, au point que, donc, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, où j'ai vu que la situation s'était quand même beaucoup aggravée, enfin, c'était de mal en pire. J'ai quitté la maison, j'ai demandé le divorce. Et Pascal, lui, a été hospitalisé. Et là, donc là, on était en 2010. Jusqu'à sa mort, en fait, il a fait la navette entre l'hôpital et éventuellement un logement, une petite location qu'il pouvait avoir. Ça durait jamais très très longtemps, en fait. Il avait ce désir de revivre, hein, comme tout le monde, de vivre comme tout le monde dans un petit appartement, voilà, dans la vraie vie. Mais finalement, en fait, les 6 dernières années, il a vraiment fait la navette et de plus en plus, il est resté de plus en plus longtemps en hôpital psychiatrique. Et en fait, ensuite est arrivé, je dirais, le drame de ma vie, parce que l'alcool à côté de ça, c'est. Je dirais pas que c'est presque rien, mais ça n'a rien à voir. Eh bien, il s'est suicidé. Donc ça, là, c'était encore autre chose à vivre, à accepter, à supporter. Et voilà. Et j'ai hésité, en fait, dans mon livre, à en parler, et puis je me suis dit, mais au fond, les gens qui vont lire, ils vont vous poser la même
Ah
question
ben,
que vous.
obligatoirement, obligatoirement.
Obligatoirement. Je me suis dit, bon, oui, c'est inévitable, et puis ça fait partie de mon histoire. Et là, je me suis dit, bon, là, maintenant, c'est encore autre chose. Après l'alcool, après la maladie psychiatrique, parce qu'il y a aussi pas mal d'aventures autour de ça, hein, autour avec les. Alors, juste une parenthèse à propos de justement la maladie psychiatrique. Je me suis rapprochée d'une association et je tiens à en parler. C'est une association magnifique dont je suis toujours adhérente parce que je les soutiens à fond. C'est une association qui est dédiée justement aux proches et aux amis de personnes qui ont un trouble psychique. C'est l'UNAFAM. Et vraiment, moi j'ai trouvé chez l'UNAFAM un soutien absolument magnifique. Et je tiens à en parler ici à l'antenne, leur rendre cet hommage. Et voilà, donc il y a eu cet épisode de suicide. Hein. Alors là, touche l'enfer, hein. Avec l'alcool, on a déjà l'impression de toucher l'enfer, mais avec le suicide, c'est pire. Mais j'ai donc choisi d'en parler parce que je me suis rendu compte que ce chemin très très dur était quand même, pouvait être quand même un chemin de reconstruction. Et je me suis dit, j'aurais aimé, vous voyez, au moment du suicide de Pascal, dans les 2 années qui ont suivi, qui ont été si atroces, j'aurais aimé que quelqu'un me dise, Marie, un jour tu iras mieux. Un jour tu iras mieux, et ça ne veut pas dire qu'en fait tu oublies ton proche, ça ne veut pas dire que tu oublies, voilà, que tu as tourné la page. Un jour tu iras mieux en ayant pu intégrer ce traumatisme du suicide, et tes souvenirs seront apaisés. Et c'est très long. Et c'est ce que je veux témoigner dans mon livre. C'est un chemin qui est très très long, qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire quoi, quelquefois on a l'impression qu'on avance et que ça y est, ça va mieux, puis paf, on recule pour X raisons. Mais mon expérience à moi personnelle, hein, j'ai jamais eu tellement l'occasion d'en parler avec d'autres, c'est que c'est très long, mais en tout cas moi, au bout de 5 ans après la mort de Pascal, j'ai pu me dire, oui, maintenant, aujourd'hui, je vais bien. Oui, maintenant, aujourd'hui, j'ai accepté tout ça, toute son histoire. J'ai accepté toutes ces difficultés monstrueuses qu'on a affrontées. J'ai accepté que lui en soit libéré aussi. Il y a tout un chemin d'acceptation. Et puis aussi de dire, ben oui, Marie, tu as fait ce que tu as pu. De toute façon, tu ne pouvais pas le sauver, parce que c'est ça, un petit peu ça mon problème de base, hein, c'est que je voulais sauver mon mari. Et donc, le suicide, ça arrête tout, toute perspective, en fait, c'est ça qui est atroce. Ça arrête toute perspective et toute. Mon rêve, en fait, à la fin de sa vie, bon, il était en hôpital de psychiatrique, il avait des hauts et des bas, ça allait plus ou moins bien. Bon, mais je me disais, j'avais toujours cette espèce d'espoir, me dire, mais un jour, il va aller un petit peu mieux, espérons. Les médecins font tout pour. Hein. Et puis, un jour, il va peut-être trouver que sa vie, qui est tellement vue de l'extérieur, épouvantable, mais non, peut-être que lui, il va trouver un sens à sa vie. Sa vie qui est si spéciale, peut-être que lui va. Et c'était mon espoir. Et c'était ça qui a été en fait complètement détruit par le suicide. C'est que non, il n'y avait pas de sens à sa vie, tel que je le voyais. Enfin, c'était très, très violent. Très, très violent. Mais voilà, le message que j'ai envie de faire passer, c'est de dire. Vous vivez l'enfer, mais je pense que au bout du chemin, vous irez mieux. Voilà, il y a tout ça dans mon bouquin.
Eh bien, écoutez, ce bouquin, On mettra toutes les coordonnées de ce livre, La solitude de Job, quand l'alcool s'invite dans une famille, aux éditions Mediapole. Vous pourrez trouver les coordonnées de ce bouquin sur notre page Facebook, bien évidemment. Merci pour votre témoignage, Marie, sur la Libre Antenne d'Europe 1.
Merci d'avoir écouté.
Et je vous en prie. Et bon courage à vous. Et puis, embrassez vos enfants pour nous.
Oui, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.